buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'accent avec une nouvelle polémique sur l'art spolié à Berlin, le nouveau marché opus de Barcelone, l'ouverture plutôt malvenue d'un pub sur une aire d'autoroute au nord de Londres, la Pologne qui se lance dans la production de cidre, une balade à La Valette, capitale de Malte, et le choix musical de Vincent Teval. En Allemagne, on ne parle pas d'art spolié à la légère. La dernière affaire avait concerné Cornelius Gurlitt, collectionneur octogénaire, qui vivait reclus dans un appartement de Munich avec près de 1500 œuvres d'art. Une nouvelle polémique concerne cette fois-ci des œuvres qui seront exposées dans le musée ethnographique actuellement en construction à Berlin. Des œuvres volées à l'époque coloniale pour ses détracteurs, qui réclament leur retour dans leur pays d'origine. C'est un reportage de Déborah Berlioz.
En plein cœur de Berlin, l'ancien château des rois de Prusse, détruit pendant la guerre, renaît de ses cendres. Rebaptisé Humboldt Forum, il abritera le musée d'ethnologie, actuellement situé dans le quartier de Dahlem. Mais depuis l'été dernier, l'initiative No Humboldt 21 demande l'arrêt immédiat des travaux, ce qui dérange ses détracteurs. Ce n'est pas l'architecture ou l'aspect onéreux du projet pour la ville. Non, c'est surtout la collection qu'il renfermera. Il s'agirait d'art spolié. Christian Kopp, de l'association Berlin Postcolonial, est à l'origine de l'initiative.
Notre principale critique, c'est que ces objets ont été ramenés ici dans un contexte injuste, c'est-à-dire à l'époque coloniale. Et on va les exposer dans un bâtiment qui était le siège du gouvernement des rois de Prusse. Les Prussiens qui ont participé au commerce des esclaves, qui étaient aussi les dirigeants de l'empire colonial allemand. C'est complètement irrespectueux.
La collection ethnologique berlinoise comporte 500 000 objets, dont des sculptures en bronze, des vases ou encore des armures rituelles. Seule une partie vient directement des anciennes colonies allemandes, en Afrique et dans le Pacifique. Mais la majorité des pièces a bien été acquise dans le cadre des conquêtes coloniales européennes. Et tous ces objets devraient retourner dans leur pays d'origine, selon Mokhtar Camara. Il est président du Conseil central de la communauté africaine en Allemagne, l'une des 80 associations liées à l'initiative contre le Humboldt Forum.
Je peux accepter peut-être que si c'est des objets utilitaires, ok, on peut les mettre dans les musées, mais je ne peux pas comprendre que certains dieux africains se retrouvent dans des musées européens exposés comme des curiosités bizarres alors qu'ils ont un caractère sain chez certains peuples africains.
La Fondation pour l'héritage culturel prussien, responsable du musée, ne partage pas ce point de vue. Selon Hermann Partinger, son président, il ne s'agissait pas de vol quand les Allemands ont constitué cette collection.
Il s'agissait vraiment de conserver la tradition de ces cultures avant tous les changements qu'allait apporter la modernité. Et une grande partie des objets de la collection du musée d'ethnologie sont faits de matériaux dégradables. Donc il s'agissait vraiment de les préserver. Et dire qu'on a simplement pillé et volé la moitié du monde est une vision trop simpliste.
Les objets de la collection ont donc été acquis légalement, mais dans un contexte injuste, selon Christian Kopp. À l'époque, les colons ont pu abuser de leur autorité pour obtenir certaines pièces.
Un exemple célèbre est le trône du roi Njoya au Cameroun. On a dit que ce trône était un cadeau fait à l'Allemagne, mais il a été prouvé que le roi avait refusé pendant des années de le donner jusqu'à ce qu'on lui impose. D'ailleurs, quel souverain n'accorderait pas d'importance à son trône, qui le donnerait volontairement?
Le musée n'envisage pas de se défaire de sa collection. Toutefois, il prête souvent des pièces aux pays qui le demandent. Ce n'est pas encore assez pour Christian Kopp, mais au moins son initiative a le mérite de rappeler le passé colonial allemand, très méconnu, même de ce côté du Rhin.
Beaucoup d'Allemands n'ont pas envie de se confronter à une deuxième culpabilité historique en travaillant là-dessus. Et c'est pourquoi c'est très dur d'aborder ce sujet. C'est un thème qui est à peine vu au cours de la scolarité.
Pour Viola Koenig, la directrice du musée d'ethnologie, le Humboldt Forum sera justement l'occasion de parler de ce passé colonial.
Notre objectif, c'est aussi d'amener le débat à l'extérieur du musée. Ce qui est important, c'est l'emplacement même du musée. Si ça se passe à Dahlem, à la périphérie de Berlin, personne ne l'entendra. Mais si on ramène la discussion au centre de Berlin, ça peut avoir une résonance bien plus importante.
Alors certes, l'empire colonial allemand n'a existé que de 1871 à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais il a aussi eu son lot de crimes, comme le massacre des Herero en Namibie en 1904. Une délégation de Namibiens est d'ailleurs venue en 2011 à Berlin pour récupérer les crânes de 20 de leurs aïeux. Christian Kopp les avait alors accompagnés.
C'était nécessaire car le gouvernement allemand ne les a pas accompagnés. C'était un accueil indigne que des victimes d'un génocide viennent en Allemagne par leurs propres moyens pour récupérer les ossements de leurs ancêtres et qu'on ne les reçoive quasiment pas, sans la moindre trace d'amitié ou de respect. Ça m'a choqué, c'est du racisme.
L'initiative No Humboldt 21 appelle donc le gouvernement et la société allemande dans son ensemble à faire un vrai travail de mémoire sur l'époque coloniale. Et elle continuera au moins jusqu'en 2019, date de l'ouverture du nouveau musée ethnologique. Aïe !
L'endroit est tout neuf, mais on n'y trouve que des vieilles choses. Les nouveaux encans, le marché aux puces de Barcelone. Martine Pouchard est allée chiner les infos.
Helsinkans, en catalan, est l'un des plus anciens marchés d'Europe qui existe depuis le XVe siècle. En lieu et place de l'ancienne forêt des enchanteurs, difficile de ne pas se laisser séduire par son pouvoir attractif. Depuis des siècles, tous les matins, les chalands, des habitués, viennent assister aux ventes aux enchères. Vieux meubles, objets insolites, curiosités, mais aussi vide-greniers. Helsinkans sont aussi un immense déballage en place publique. On y harangue le client pour le persuader qu'il ne doit pas passer à côté de la bonne affaire. Certes, certains ont eu la chance d'y dénicher de vraies merveilles. Le peintre Salvador Dali était un habitué, plutôt radin, qui aimait marchander et avait en guise de paiement fait un dessin pour satisfaire à moindre coût les caprices de Gala, sa femme, qui voulait acquérir une peau de serpent. La belle affaire pour le vendeur. La Feria del Belker, c'est aussi son nom, est très fréquentée, plus de 500 commerçants, 100 000 acheteurs par an. Les ventes se font aux enchères de l'eau entier qui sont vendues aux plus offrantes des commerçants trois fois par semaine, puis détaillées pour le public. Le processus immuable depuis des siècles est unique en Europe. Et le marché vient d'être rénové, il y perd son charme désuet mais il trouve un air de modernité. L'architecte Fermín Vázquez y signe une nouvelle couverture très avant-gardiste. Désormais, l'endroit deviendra une halte incontournable des circuits touristiques, même s'il risque d'y perdre son âme. Ces nouvelles puces ont coûté la bagatelle de 57 millions d'euros, une somme qui fait bondir les détracteurs de ce projet dispendieux.
Boire ou conduire, c'est désormais une question de bon sens. Sauf qu'en Angleterre, les automobilistes qui empruntent une autoroute du nord-ouest de Londres sont désormais ouvertement sollicités pour s'en jeter un petit derrière le col, Marie Billon.
Un petit dernier pour la route. L'idée paraît aberrante aujourd'hui. Mais avec l'ouverture d'un pub sur une aire d'autoroute, les associations pour la sécurité routière craignent que la chaîne Wetherspoon ne contribue à transformer la question en injonction. Pour beaucoup, ouvrir un pub sur l'autoroute, c'est soumettre les automobilistes à une tentation mortelle, surtout quand le nombre de tués sur la route à cause de l'alcool a encore augmenté l'an dernier, faisant 290 victimes dans tout le pays. Fausses accusations selon le Hope and Champion, ne serait-ce que parce qu'il est déjà possible d'acheter de l'alcool sur certaines aires d'autoroute, comme celle où ce pub s'est installé. Des aires qui sont devenues de vraies petites villes, avec des chaînes de cafés et de restaurants, des supérettes et même des machines à sous. Mais acheter une canette de bière dans un magasin et se poser à une table pour sociabiliser en buvant, ça n'est pas vraiment pareil. Le pub est ouvert tous les jours de la semaine, de 4h à 1h du matin, et peut servir de l'alcool à partir de 9h du matin. La chaîne s'est défendue en assurant que tout serait mis en œuvre pour décourager les conducteurs de s'offrir une pinte. Des publicités pour la sécurité routière ornent la façade et les menus. Rien n'est fait non plus pour pousser à la consommation d'alcool. Les boissons non alcoolisées coûtent moins cher et certains types de café et de thé sont servis à volonté. L'établissement a même promis de garder un œil sur les consommateurs d'alcool en s'assurant que celui qui boit n'est pas celui qui conduit. C'est ce qu'a voulu vérifier un journaliste du tabloïd The Mirror. Après avoir posé une carte routière et ses clés de voiture sur la table, il a bu 4 pintes avant de quitter l'établissement en titubant. Et à aucun moment, assure-t-il, un employé ou un responsable ne s'est inquiété de son état d'ébriété.
De
de la concurrence en vue pour les producteurs français et britanniques de cidre. La Pologne, plus grand producteur d'Europe de pommes, propose désormais sa propre production, une industrie cidricole qui en est à ses débuts mais qui pourrait vite faire du pays un acteur important du secteur. Le reportage de Maya Szymanowska.
Dans ce bar à la mode de Varsovie, le cidre polonais vient récemment de faire son apparition et il a déjà gagné des fans.
En fait, le cidre polonais, c'est la meilleure chose que je connais. C'est certainement le meilleur choix en été, puisqu'il fait super chaud en Pologne, même si on n'y croit pas. Et donc le cidre polonais, qui est fait de pommes polonaises, est vraiment, vraiment exquis. Et je crois que par rapport à la bière, par rapport à la vodka et par rapport à tous les alcools qu'on puisse choisir en Pologne, c'est vraiment le meilleur choix qu'on peut faire. C'est très bio, d'ailleurs. Et c'est pas du tout cher.
Un autre usager du bar, goûteur de cru de métier et importateur de vin, est moins dithyrambique.
Ça se laisse boire, mais je pense que ça dépend des producteurs. On mettra du temps à arriver à un résultat satisfaisant. C'est une histoire très récente en Pologne. Ça ne remonte qu'à un an et demi.
La production du cidre en Pologne est en effet un phénomène nouveau. Même si le jabłecznik, l'alcool de pomme, existe depuis le Moyen-Âge, il faisait plutôt penser à de la mauvaise vinasse et il a disparu avec la fin du communisme. Zbyszek Miecz, qui vient d'ouvrir un restaurant Slow Food à Varsovie, a été le premier à écrire sur le cidre et à le promouvoir en Pologne. Il explique pourquoi la Pologne s'y est mis si tard.
Il y a eu d'abord le monopole d'État qui a disparu après la chute du communisme. Puis ce sont les grandes entreprises qui ont pris le relais. Or, un bon cidre, d'après moi, ne s'obtient que dans une production artisanale. Maintenant, c'est possible. En plus, depuis 10 ans, les Polonais ont commencé à beaucoup voyager à travers l'Europe. En France, en Normandie, au Pays Basque et surtout en Angleterre, où le cidre est aussi présent. Et en revenant, ces gens ont voulu trouver du cidre ici.
Le pays est pourtant le premier producteur de pommes d'Europe et de pommes de qualité. Environ 2,8 millions de tonnes y sont cueillies chaque année. En 2013, le pays a été le premier exportateur de pommes dans le monde, coiffant même la Chine au poteau. La production du cidre semble être une bonne idée, même si les résultats sont pour l'instant inégaux.
En Pologne, nous avons encore beaucoup de cidre de très mauvaise qualité, voire franchement dégueulasse. Je vais faire de l'antipub, mais on peut citer le cidre de la région de Lublin, qui n'a vraiment rien à voir avec du cidre, ou le cidre de Poznan, très faiblard aussi. Mais nous avons déjà 4 producteurs qui font un cidre vraiment excellent.
Et Zbyszek de Citek Krzysztof-Mauer, initiateur des changements législatifs qui ont facilité aux petits producteurs d'obtenir les licences nécessaires pour se lancer dans la fabrication du cidre. Il y a encore Tomasz Rembowski, Hieronim Błażejak, Agnieszka Zamojska ou Marcin Lorek, tous ou presque des autodidactes. Un seul producteur s'est offert les services d'un consultant français qu'il a fait venir du Pays Basque. Ils avouent tous que l'apprentissage dure en moyenne 3 ans. Les producteurs sont désormais au point. Alors le cidre, un projet qui a de l'avenir en Pologne, c'est l'avis de Zbyszek Miecz.
Ça peut devenir un business très lucratif. Quand j'ai participé au marché bio de Soho Factory, je présentais le cidre de Marcin Lorka. Il a disparu en un clin d'œil.
Le seul hic, la législation. Les régulations concernant les producteurs de pommes qui voudraient se mettre à produire du cidre étaient jusque-là très complexes et souvent contradictoires. Mais sous la pression du syndicat des producteurs de fruits, la loi est en train d'évoluer. En 2013, il s'est vendu en Pologne 6 millions de litres de cette boisson dorée et pétillante. Les ventes ne sont pas prêtes de faire pchit. À terme, d'après les analystes tels Paweł Kosecki, elles pourraient être multipliées par 10.
C'est l'une des capitales la plus méridionale de l'Union européenne. La Valette est liée par son nom et son histoire aux chevaliers de l'ordre de Malte. Visite guidée de la capitale maltaise, perle architecturale de la Méditerranée avec Alexis Rosenzweig.
La Valette est à la mesure de Malte, de taille réduite. Son artère principale, la rue de la République, est la plus longue, avec à peine un peu plus d'un kilomètre. Quadrillage minutieux et pierre locale dorée par le soleil, la capitale maltaise est la première ville européenne bâtie sur plan, sans nivellement préalable. Le chevalier français Jean Parisot de La Valette meurt pendant l'édification de la cité qui portera son nom, juste après le grand siège de Malte par les Ottomans au XVIe siècle. Les influences des occupants successifs sont visibles dans cette péninsule fortifiée située au nord-est de l'île et qui surplombe 2 grands ports. Les temps changent, certaines couleurs aussi, Les célèbres bus jaunes sont désormais bleus et de marque chinoise, mais on conduit toujours à gauche dans cette ancienne colonie britannique. Décorés de balconnets fermés en bois et en pierre, les rues étroites plongent vers la mer en protégeant de la canicule estivale. Les cloches des nombreuses églises rythment la vie avec celle de la co-cathédrale de Saint-Jean qui sonne au-dessus de l'œuvre du Caravage. À quelques pas de là, et en cours de finition, le nouveau Parlement maltais, dessiné par le célèbre architecte Renzo Piano, symbole d'une jeune république âgée de 40 ans seulement, entre tradition et modernisme. La Valette est la capitale du plus petit pays de l'Union européenne depuis son adhésion en 2004. Elle est aussi la moins peuplée, même si les villages voisins forment désormais un ensemble urbain compact et dense. En tout cas, ses 6000 habitants s'enorgueillissent déjà du titre de capitale européenne de la culture qui sera décerné à La Valette en 2018, 38 ans après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Musique. Et comme chaque jour de l'été, on retrouve Vincent Théval pour sa pop estivale.
Peut-être vous souvenez-vous de ces sympathiques hurluberlus qu'on a croisés dans Accent d'Europe à l'époque de leur premier album, The Plumeluk Experience, ainsi titré parce qu'il avait été enregistré en Bretagne. 4 ans plus tard, les Yo-Yo-Yo Acapulco ne sont toujours pas mexicains, mais bel et bien norvégiens. Ils sont originaires de Gausdal, c'est au centre du pays. À l'heure du deuxième album, pas de révolution majeure à signaler dans la musique du Quatuor, qui excelle toujours dans une sorte de folk bricolé à base de ukulélé, de rythmiques nonchalantes et de chœurs délicieux. Tout juste sent-on ça et là un léger voile de mélancolie recouvrir certaines chansons, comme sur cette « Before ».
Et ce titre, comme tant d'autres, vous pouvez les retrouver sur notre page spéciale à l'adresse d'Accent d'Europe, les estivales de Vincent Théval. Françoise Grelot réalisait cette émission, à retrouver demain sur les ondes et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.